Salut, vous écoutez bien, oulala, vous écoutez bien le radio show du jeudi soir. N'oubliez pas d'ajuster vos casques, on va ajuster les micros là tout bientôt. Micro jaune est tout vert, micro vert est tout jaune, micro jaune là-bas, ça devrait être celui-là. Et micro rouge, ça doit être celui-là. Ah ok, et eh bien donc
c'est un vert.
Donc voilà, c'est un vert qui a la couleur du rouge. Mais non, bienvenue donc, nous sommes le 3 janvier 2019. C'est le radio show du jeudi soir, historiquement connu sous le nom de Feu de Toutbois, qui ce soir s'intéresse aux gilets jaunes. On va prendre le temps de s'installer et de prendre la parole chacun son tour. Alors pour tester les micros, on pourrait dire salut à tout le monde, en commençant par toi.
Eh bien salut à tout le monde, force et courage à tous les gilets jaunes.
Salut à tous.
Alors il faut bien parler dans l'axe du micro.
Ça y est, j'y suis.
Vas-y, parle encore un peu plus.
Ouais, ça fonctionne.
Mais super.
Eh bien bonsoir à tous les auditeurs.
Ok.
Radiophonique.
Et Joe. Joe la tambouille.
Voilà, c'est ça. Voilà, ben bonsoir à tous les auditeurs également.
Ok, eh bien il se trouve que vous pouvez aussi nous appeler au 0 952 368 531. Mais patience, je n'ai pas encore branché le téléphone. Donc je vais aller faire ça dans la foulée. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas du tout fait de fil conducteur de cette émission.
Mais c'est ce qui se passe avec les gilets jaunes depuis le début. Il y a une organisation intuitive qui se fait toute seule. Tout s'organise et tout s'organise remarquablement bien, donc ça continue, c'est très bien.
Tout s'organique.
C'est vraiment ce passage qui est assez étonnant, c'est-à-dire on est en train de quitter un système qui était hiérarchique, vertical, économique, pour mettre en place un système humain, plus horizontal, où tout le monde communique d'égal à égal, et c'est ça qui est vraiment chouette. Donc je suis ravi de voir que ça fonctionne comme ça ce soir à la radio également.
Validé, absolument. On va être comme ça, hein, l'horizontalité.
On est en plein dans le thème, très bien.
Plateau en direct. Donc vous êtes ce plateau est rond comme un rond-point. Est-ce que vous êtes passé au rond-point? Alors moi aussi, donc je peux dire, bah voilà, Aline, une des voix habituelles de la radio qui doit vous écœurer à force de l'entendre. Mais je pourrais aussi, en tant que fréquentant ce rond-point, participer. Peut-être un peu moins que vous, parce que je vais essayer d'être attentif à la technique et que ce qu'on passe est enregistré à partir de maintenant. Voilà.
C'est vrai que c'est assez intimidant. Moi, c'est la première fois que je passe à la radio. C'est quand même assez intimidant.
En général, on commence le radio show du jeudi soir par un agenda. Donc là, j'ai sous les yeux un papier qui peut être lu le temps que j'aille mettre le téléphone, parce que je le connais déjà, et qui peut rappeler l'agenda dans lequel on est. C'est Seb, je te laisse lire.
Ok, c'est parti. C'est donc un tract qui a été diffusé, qui est toujours en voie de diffusion, et qui propose à ceux qui le voudront de rejoindre une marche, une rencontre, une discussion avec les gilets jaunes, pour essayer de répondre aux questions suivantes. Qui sont donc les gilets jaunes? Que font ces personnes sur le rond-point de Die? Quelles sont leurs revendications? Quelle est leur légitimité? Sont-ils de violents révolutionnaires? Des fascistes? Bon, en tout cas, sur le rond-point, c'est sûr que ça cause toute la journée. Et pour partager ces discussions avec la plus large partie possible du monde diois, on va se faire une petite marche à travers les rues de Die samedi prochain, on est jeudi dans 3 jours, 2 jours, à partir de 10h du matin. Et le but, c'est vraiment d'essayer de mettre en évidence ce qui peut unir des gens de sensibilités différentes dans un même mouvement. C'est-à-dire en fait ça c'est vraiment quelque chose auquel je tiens, une chose à laquelle je tiens personnellement, c'est maintenir cette hétéroclité du mouvement. Je pense que c'est une de ses forces. À partir du moment où on lisse les revendications, on risque de retomber dans ce qui entrave notre quête de liberté et voire plus basiquement de pouvoir d'achat. Bon, je pense qu'il faut bien faire avec cette expression à un moment ou à un autre depuis une quarantaine d'années, c'est-à-dire qu'on sectorialise les luttes, les enseignants défendent l'enseignement, et d'ailleurs ça continue, il y a une opération stylo rouge là pour le moment. Je trouve dommage que les enseignants ne mettent pas simplement un gilet jaune et rejoignent le rond-point le plus proche, parce qu'en fait ils pourraient non seulement être soutenus dans leurs revendications par les gens du rond-point, mais ils pourraient aussi leur expliquer en quoi l'enseignement se porte mal, ce qui peut être quelque chose de pas évident pour tout le monde, ni surtout les ronds-points. Donc voilà, je pense que se regrouper, porter ses propres revendications, accompagner celles des autres, proposer les siennes aux autres, c'est probablement la force du mouvement. Donc rendez-vous donc le samedi.
Donc, et tu parlais d'une marche, un des retours, donc ce fly, ce papier, ce recueil de questions. Alors du coup, j'étais pas là, mais tu as lu à peu près toutes les questions.
Alors j'ai pas tout lu, à un moment j'ai un peu dévié.
Donc, peut-être on pourra y revenir, mais en tout cas, tout de suite pour revenir sur le thème de marche, une personne m'a dit dans une voiture, dit, ah oui, mais alors moi, marcher, c'est... Mais de toute façon, il faut des gens qui restent sur le rond-point. Donc rendez-vous à 10h, et puis rendez-vous comme d'habitude toute la journée, et puis tous les jours de toute façon. Et puis s'il y en a qui sont allés faire un tour ces jours de marché à 10, donc certainement sur le marché, c'est l'occasion de se retrouver aussi ailleurs. Vous reconnaîtrez facilement les gilets jaunes à la couleur de leur gilet. Et puis si vous voulez aller sur le rond-point à ce moment-là et ne pas bouger, et bien c'est tant mieux, puisque de toute façon il y a tout le temps des gens qui restent sur le rond-point. Enfin, c'est en tout cas une tentative, et là maintenant, si vous nous entendez, et bien vous pouvez soit venir à la radio, soit téléphoner au 0952 368 531. Cette émission est en direct et en public, et soit en profiter pour vous rendre sur le rond-point et puis peut-être y apporter un transistor, parce que je ne sais pas si le rond-point est équipé en transistor, mais en tout cas un plus ne fera pas de mal, ou y aller même sans transistor pour ne pas écouter la radio, mais aller voir directement, ne nous faites pas confiance, allez voir directement ce qui s'y passe.
On a beaucoup de choses à se dire, et ce qui est merveilleux sur le rond-point, c'est de voir à quel point les gens de tous horizons communiquent facilement, viennent, prennent un café et expriment leurs idées. Il faut voir qu'on est vraiment à ce changement de système. Le mouvement des Gilets jaunes, il ne va pas s'arrêter demain. C'est en marche, et mais vraiment sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, mais c'est vraiment un mouvement qui avance et qui nous ouvre vers ce nouveau modèle humain que nous sommes en train de construire. C'est vrai que le système capitaliste et économique auquel j'ai cru moi-même complètement quand j'étais plus jeune, il faut bien se rendre compte que ça ne marche pas, de toutes les façons. Pour la petite histoire, vous connaissez l'histoire du Monopoly, je crois que l'histoire de... Il faut que je parle plus dans le micro ? Oui. L'histoire de Monopoly, c'est Elizabeth Magee qui, en 1904, avait inventé le Monopoly, le jeu de Monopoly. Et en fait, il a été complètement dévié de l'idée originale de l'auteur. Parce que le but du jeu de Monopoly, c'était de démontrer que le capitalisme ne marchait pas, qu'il ne pouvait que enrichir davantage les riches et appauvrir davantage les pauvres. Et que celui qui s'en sortait toujours, c'était la banque. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a des petits malins qui lui ont dit « Mais c'est très bien, on va faire la promotion de votre idée à votre place. » Et parce qu'on sait le faire, on est la société Parker & Brothers, on va le faire. Et donc, elle a donné tous ses droits gratuitement. Et puis maintenant, le jeu de Monopoly fait 40 millions de dollars par an. Voilà. Et puis, d'un autre côté, il y a des banquiers qui ont bien compris aussi que c'était la banque qui gagnait. Et il y a eu la naissance de la Fed. Il faut voir quand même que les problèmes que l'on a, pour moi, ils viennent vraiment tous de là. C'est-à-dire qu'en 1913, eh bien, une société privée, organisée par Rothschild, Rockefeller et J.P. Morgan, a pris le contrôle de l'impression des billets de banque américains. Et à partir de ce moment-là, les billets de banque, il n'y avait plus aucune contrepartie. Et maintenant, on arrive à 800 000 trillions de dollars de monnaie imprimée sans contrepartie dans le monde. Et Michel Rocard disait lui-même, vous retrouverez son interview sur Internet, à propos de la Banque de France, en disant, sur ces 800 000 trillions de dollars, 98% ne servent qu'à la spéculation. C'est quand même assez vraiment incroyable. Alors, on doit de l'argent, il paraît qu'à l'État, on doit de l'argent, mais on doit de l'argent à qui ? Eh ben, à Rothschild. Donc, on ne sait plus où on est. Donc, le système doit complètement changer, parce que tout le système capitaliste est basé sur des valeurs qui ne sont pas humaines. La compétition, ça ne tient pas debout. La vraie compétition, c'est par rapport à soi, c'est jamais par rapport à l'autre.
Non, mais ce qui est souvent mis en avant par rapport à la compétition, c'est que, du coup, ça booste les performances. Le fait de mettre... Le fait de mettre deux entités en compétition sur un produit, un concept commun, va faire que, en gros, ils vont se tirer la bourre et sur la qualité du produit final et sur le prix, et que ça va bénéficier au plus grand nombre. Ça, c'est la théorie. Voilà, on sait que
c'est la théorie.
Qu'au final, on a plus finalement de la mise en place de freins pour protéger les idées, pour empêcher que tout le monde se les approprie. Donc
c'est le business sans éthique, c'est la ruine de l'âme. Hein. Je ne suis pas le premier à le dire. Je ne fais que répéter ce que beaucoup ont dit avant. Les transactions, elles doivent se faire. On doit mettre en avant le service que l'on apporte.
La production de richesse.
Voilà,
matériel ou immatériel.
Voilà, ben c'est ça. Là, le Crédit Agricole, par exemple, au début des années 1900, eh bien, il prêtait de l'argent gratuitement. À tous les entrepreneurs qui étaient là. Il n'y avait pas d'intérêt financier. Et lorsque quelqu'un ne remboursait pas, eh bien, il avait son nom qui était affiché sur la banque. Et tout se passait très très bien. Les margoulins disparaissaient et ceux qui avaient simplement des difficultés étaient aidés par tout le monde. Donc les temps ont changé et Michel Rocard le disait encore très bien. C'est la Banque de France prêtait de l'argent à l'État de 1801 jusqu'à 1973. Et en 1973, eh bien, il y a une loi monétaire qui s'appelle aussi la loi Rothschild, qui, dans les milieux financiers, d'après ce que j'ai lu, ce que vous pouvez lire un peu partout, qui fait que l'État est obligé d'emprunter au marché financier, c'est-à-dire toujours au même, et avec un intérêt de 4 à 5%. Alors après ça, effectivement, on se retrouve avec des problèmes qui tiennent plus debout. Donc moi, ce qui me plaît, c'est que tout ça, ça commence à se savoir, ça commence à se comprendre, et les gens parlent. Les gens parlent et communiquent. On est tous là entre nous, on fait tous un travail, on rend tous des services et on peut reconstruire un modèle humain. Alors bien sûr, c'est pas facile de changer de système, mais on s'y attache.
Non, le problème qu'il y a, je pense aussi, c'est que moi aussi à la base, j'étais pas forcément contre le capitalisme, mais ça pouvait paraître un peu logique qu'en faisant beaucoup d'argent, on allait répartir cet argent. Voilà. En augmentant les richesses, qu'on allait répartir les richesses, et ce n'est pas le cas. Certaines veulent garder les richesses pour eux, et ils ne veulent pas partager. Il est là le problème. Et c'est pour ça que...
Parle bien dans ton micro.
Voilà.
Prends le papier.
C'est bon, là ?
Ouais.
Voilà. Et c'est pour ça que j'amène tous les gens à réfléchir, parce que on nous dit sans arrêt que les services de l'État, ça coûte cher, enfin beaucoup de choses coûtent cher apparemment. Mais il faut pas se leurrer, il y a énormément d'argent dans ce pays. Je parle de la France, hein, bien sûr, il y a énormément d'argent, énormément de richesses, voilà, justement des richesses qui se traduisent en argent. Et donc, tiens, je vais aborder le sujet du SMIC. Bon, je vais peut-être être un peu utopique, mais moi, je pense que actuellement, les gens pourraient être payés 12 euros net. Ça n'engage que moi, bien sûr. Et quand on nous dit que c'est pas possible pour ci, pour ça, voilà, je pense qu'on nous vend des fadaises.
Si tu permets.
Ouais, vas-y, je t'en prie.
En ce qui concerne le SMIC, il y a quand même quelque chose d'assez effrayant, c'est qu'en fait on a imposé aux très petites entreprises des normes qui sont celles qu'on demande aux gros, à la demande des gros d'ailleurs pour écraser les plus petits, des normes sanitaires, des normes fiscales, des normes, il y en a de tous côtés, ce qui fait qu'on se retrouve avec des petites entreprises qui ont un mal fou, là, je parle d'entreprises qui ont 1, 2, 3 employés, à sortir le salaire minimum de leurs employés. C'est-à-dire on se retrouve dans des situations où des entreprises ont du mal à payer au minimum leurs employés. c'est complètement c'est aberrant. Pourtant, on sait bien que ce seuil du SMIC est tout juste suffisant pour s'en sortir, qu'il est très légèrement supérieur au seuil de pauvreté défini. Et malgré tout, des entreprises qui fonctionnent parce que les normes pèsent sur elles sans la possibilité de faire des économies d'échelle comme des groupes plus importants peuvent le faire, les conduit à parfois se séparer de leurs employés, donc à mettre la clé sous la porte ou à réduire très sérieusement leur volume d'activité. Et ça, c'est quand même c'est assez embêtant. On voit ça en hôtellerie, par exemple, on voit ça dans les secteurs alimentaires, c'est très net aussi. Et un autre petit mot sur le SMIC, parce qu'en fait, j'entendais le reportage de Vincent, Heureuse Révolution, qui est toujours disponible en podcast sur le site de l'émission. Donc il est parti dans le Vaucluse, vers Apt, vers Cédron, peut-être.
Nyons, dit même.
Voilà, ouais. Voilà, dit, c'est pas encore diffusé. Voilà. Donc là, pour le moment, on a la première partie. Et à un moment, sur un rond-point, on entend des choses, mais... que je trouve assez effarante, où des gilets jaunes tiennent un discours patronal, c'est-à-dire qu'ils considèrent le salaire comme étant une charge. Et je pense que là, il y a vraiment des choses à faire en termes de débat. Quand vous êtes salarié, le salaire, ce n'est pas une charge. La charge, pour vous, du point de vue salarié, c'est la rémunération du capital. Ce n'est pas votre salaire. Le salaire qui est constitué du net et du salaire différé, la somme constituant le salaire brut, c'est-à-dire le seul vrai salaire, c'est le salaire brut. Donc quand Macron rogne dedans pour filer une prime d'activité à 55% des smicards qui sont dans les conditions de ménage fiscal nécessaires, mais ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il le reprend dans une poche, dans la poche droite, pour remplir la poche gauche. Parce qu'à un moment, on va se poser la question de savoir comment on va financer la protection sociale, le chômage, la formation et les quelques autres secteurs concernés par ce qu'on appelle les charges patronales, je mets des guillemets, si on supprime ces cotisations pour les donner directement sous forme de faux net aux employés. Donc là, il y a un autre problème qui est en train de se poser et les gens vont bientôt s'en rendre compte. Le 30 décembre, c'est-à-dire la veille du jour où Macron nous faisait son deuxième discours complètement lénifiant, l'Assemblée votait un durcissement et une restriction des droits
pour
les chômeurs. Mmh. C'est-à-dire que maintenant, le premier refus vous conduira directement à une suspension, une suppression même des allocations. C'est pas le repousser plus loin en disant on va t'en priver ce mois-ci, mais tu l'auras en fin de droit. Non, non, c'est une suppression totale de l'allocation, avec une révision de ce qu'est un boulot acceptable, notamment en termes de salaire. Donc, Macron est en train de nous dire « je vous ai compris, je comprends la colère, il file des miettes qu'on autofinance. Quand je dis « on », c'est la population en général, hein, même ceux qui ne sont pas au SMIC. Et en plus, il prépare la destruction de tout ce qui recouvre normalement les charges toujours salariales patronales, c'est-à-dire ces caisses communes qui permettent à quelqu'un qui est malade, blessé, enceinte ou autre, de continuer à bénéficier de tout ou partie de son salaire. Je vous assure que ces dispositifs ne tiendront pas le choc. Et risque de se transformer en assurance privée à un moment ou à un autre. Là, la pilule, elle va être douloureuse. Et pour les smicards, et pour tous ceux qui sont, on va dire, à moins de 2,5 fois, 3 fois le SMIC. Parce qu'une assurance complémentaire qui couvrirait une assurance chômage, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais
en plus, il faut rémunérer les actionnaires derrière.
Et en plus, il faut rémunérer les actionnaires. Ben, ça, c'est toujours le problème de la privatisation, c'est le cas des autoroutes. Hein, on reviendra peut-être tout à l'heure aux différentes actions que les Gilets jaunes ont menées. Les autoroutes m'y font penser. C'est quand même une des clés aussi du mouvement, c'est la réappropriation collective des outils qui était, de ce qui étaient les outils étatiques. Donc le transport, notamment via les autoroutes.
Moi, je vais faire une attaque. Je vais être un peu incorrect. Hein. Je pense quand même que ce président, c'est vraiment un sale type. Je crois qu'on l'avait tous remarqué. Hein. Bon, quand on voit la façon dont il était pote avec Trump, ça veut tout dire. Hein. C'est un type qui veut américaniser la France, en fait. Voilà. Et en plus, il veut donner des leçons à ses collègues européens. Certains doivent bien rigoler, je pense, hein, en ce moment, quand même. Hein. Voilà.
Alors, on va essayer vraiment ton micro, Guillaume. Tu voulais dire quelque chose et puis ce sera l'occasion de voir si ça fonctionne.
Moi, en fait, je m'entendais pas quand j'ai parlé.
Alors, tu peux suivre le fil de ton casque et régler le volume propre de ton casque.
Oui, oui, j'entends les autres.
D'accord. Et alors, vas-y, moi, je vais te commence à parler.
Du coup, vu qu'on avait parlé,
alors bien en face du micro.
Allô.
C'est bien comme si tu parlais de l'autre côté de la table.
Allô. Tu vois, l'autre, je m'entendais très bien. Bon, bref. Comment parler d'un côté de monétaire et de l'autre côté, enfin voilà, de politique de très grosses échelles, de la spéculation, et que de l'autre, on parle du SMIC. On a l'impression qu'il y a un monde, que voilà, c'est des sujets qui pourraient être différents ou quoi. Et en fait, c'est vraiment l'un qui entraîne l'autre. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a spéculation, où il y a des gens qui s'enrichissent sans avoir eux-mêmes produit de richesse. Ah, là, je m'entends. Mathématiquement, par un jeu de vase communicant, il reste moins pour ceux qui la produisent. Ça veut dire que, je crois que c'est Victor Hugo, le paradis des riches, c'est l'enfer des pauvres. C'est vraiment un lien direct, c'est de la causalité directe. Ça veut dire qu'on ne peut pas et à la fois avoir des gens d'un côté qui vont gagner des millions par mois en tapotant, en faisant des espèces de transferts de richesses qui n'existent pas, et vraiment s'enrichir personnellement là-dessus, sans impacter directement la rémunération finale de la personne qui travaille. Ça veut dire que c'est vraiment un effet mathématique. Et voilà, du coup, c'était vraiment pour faire un lien, pas donner l'impression qu'on parle de deux choses différentes.
Oui, dans mon esprit, c'est est fortement lié.
L'appuyer.
De même que tous les combats des gilets jaunes. Hein, je pense qu'on en est à une remise à plat du système, quoi, qui est nécessaire. C'est aussi pour ça qu'il y a quelque temps, j'avais écrit ce mail en essayant d'inviter les gens à laisser tomber leur lutte sectorielle.
C'est le problème. C'est
là
que,
où
du
je
coup,
disais où la lutte contre le nucléaire, par exemple, si un jour les centrales devaient fermer, ne nous donnera pas la justice sociale, et qu'à un moment, il faut s'attaquer à tout de front.
Oui, voilà, c'est ça. C'est que le moment, SMIC, la valeur du SMIC et du coup du pouvoir d'achat en tant que conséquence, il faut tirer le fil, parce que sinon, effectivement, ça va continuer à peser sur les PME, ça va continuer à alourdir. Et effectivement, là, on va finalement, leurs arguments peuvent fonctionner de temps en temps sur la compétitivité, sur des choses comme ça, parce que justement, c'est en bout de chaîne. On est déjà en train de traiter la conséquence de quelque chose qui est très malade intrinsèquement. Donc en fait, il y a très peu de marge de manœuvre si on ne remet pas en cause jusque loin dans les mécanismes qui permettent la spéculation, qui permettent l'évasion fiscale. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, au niveau des revendications, c'est compliqué, parce que il y a cette histoire d'échelle. On a d'un côté quelqu'un qui va s'arrêter en voiture, qui va voilà nous parler, par exemple, du fait que la dernière fois on rentrait en stop avec Brigitte de L'Oriole, et du coup une auxiliaire de vie qui gagne 1080 euros. Donc dans le Diois, hein. Elle part le matin, elle fait 100 km de la journée pour aller voir de bénéficiaire en bénéficiaire. Ses frais kilométriques sont à sa charge, tout ça. Ben, évidemment qu'au final, avec l'usure de la voiture, tout ça, il reste rien. Et j'ai complètement oublié pourquoi je disais ça. Mais ah oui, voilà, que derrière, c'est de la grande échelle. Et ça paraît... À ce niveau-là, on se sent un peu impuissant, comme les gens. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui fait que des fois, ça, finalement, ça a fini par exploser et de manière en tout cas ponctuellement et localement violente, c'est que qu'en fait il y a tout le monde qui peut, sans mentir, dire désolé mais je peux pas faire grand chose.
Alors du coup, j'avais envie, parce qu'on on brasse des notions qui sont hyper intéressantes, et des fois on se rend compte qu'on ne sait pas. Alors si on parle de dire il y a de l'argent en France, mais il y a des richesses en France, et les richesses c'est pas l'argent, il y a de l'argent d'un côté et il y a des richesses, mais est-ce que ces richesses c'est ce qui nous permet de vivre, c'est on prend soin les uns des autres, on donne la vie, on s'aime, on est dans la joie, on répond la joie autour de nous. D'accord. C'est ça qui nous fait vivre. Ça, c'est pas du tout monétisable. Mmh. Ces richesses, effectivement, elles sont en abondance. On a oui. en France et dans le monde tous ces êtres humains qui ont cette capacité à être là. Et de même, pour revenir à une autre chose qui est évoquée, ce salaire qui est comme une sorte de droit à l'existence, et qui rejoint cette notion de droit. Et comme si on devait mériter son droit à l'existence. Et donc à partir du moment où le salaire est là, c'est-à-dire que, eh ben oui, si pour avoir le droit de vivre, il faut engraisser un parasite qu'on appelle actionnaire, qu'on appelle patron, qu'on appelle justement la personne que tu décrivais, qui elle ne fait rien, mais a des gens qui lui obéissent par des mécanismes qui sont anciens. On a décrit la servitude volontaire. Il y a une histoire de l'esclavage et une histoire de salarié. Il y a aussi donc des revendications ou des intentions qui sont sur l'abolition du salariat, l'abolition de la propriété privée des moyens de production, qui sont ces choses-là, des outils qu'on a aussi dans notre musette d'exploration des possibles et aussi de bien se rendre compte que, moi, à mon avis, on ne vit pas grâce à l'argent, mais on vit grâce à toute autre chose qui est de plus en plus privatisé et capté par le capitalisme, qui arrive à capter même le vent des éoliennes, enfin même le vent par des éoliennes et en faire des sous, qui arrive à capter l'amour, qui arrive à capter toutes ces choses-là. Mais c'est pas la principale. On est dans du parasitisme aussi, je pense.
Je pense qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a quand même cette crise financière mondiale qui nous pend au nez, qui va nous tomber dessus, mais du jour au lendemain.
Mais est-ce qu'elle nous tombe ? Est-ce qu'on n'est pas déjà dedans ?
Oui, on est complètement dedans, mais on n'a pas encore vu ce que c'était que les banques qui ne peuvent plus donner d'argent et que tout le monde se retrouve
à zéro. On l'a vu en Italie il y a 2-3 ans, c'est ça ?
Oui, non, mais ce qui va se passer maintenant, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans le passé. On est vraiment dans une situation nouvelle qui n'a jamais existé. Et il est urgent de démarrer. Moi, ce que j'adore dans le DIY, et particulièrement on le voit sur le rond-point avec tous les gilets jaunes, c'est tous les gens qui cherchent, qui communiquent et qui cherchent des nouvelles solutions. Il y a une association à Die qui s'appelle l'Accorderie, qui est extraordinaire et qui prend justement comme étalon, comme monnaie d'échange, l'heure de temps. Et une heure de temps d'une personne est équivalente à une heure de temps d'une autre personne. Et tant que M. Macron, M. Trump, qui sont très gentils, moi je ne veux pas leur jeter la pierre, ils ont des bonnes intentions, mais ils sont déconnectés de la vie. Ils sont complètement déconnectés. Ils ont une excellente éducation.
Il faudrait définir bonne intention quand même, pardon.
Eh bien, bonne intention, tu sais, moi, on me dit toujours, les pédophiles ont des bonnes intentions aussi.
Okay, oui, donc tu effectivement, vois, on peut leur donner des bonnes intentions.
Ils ont des bonnes intentions, mais il faut voir où on va, tu vois. C'est ça ce qui se passe. Donc, et là, actuellement, on est en train de construire quelque chose de nouveau et personne ne sait comment c'est. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir ces échanges qui se font au niveau du DIY partout. On a la Carline, on a plein d'associations qui sont là, qui découvre ce que c'est que la gratuité, que le don, alors que le monde du business nous a appris les transactions. Transaction, c'est je te donne, tu me donnes. Mais les Chinois l'expliquent très bien, le corps humain ne fonctionne pas comme ça. Les artères, elles donnent le sang, elles donnent l'argent, mais elles ne donnent pas pour le retour, elles donnent et elles acceptent de recevoir.
Parce qu'elles se sentent faire partie d'un tout aussi, ou peut-être inconsciemment, elles savent que si elles ne donnent pas, elles meurent elles-mêmes.
Et non, puisque
les artères, si les artères arrêtent de travailler, elle meurt avec le système.
Oui, voilà. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les artères, elles continuent de donner, même s'il n'y a pas de retour. Et s'il n'y a pas de retour, effectivement, le corps humain meurt. Ouais. Mais chacun garde sa fonction. Aujourd'hui, dans le modèle dans lequel on vit, ce que Edgar Morin appelle la dictature du chiffre, symbolisée par Emmanuel Macron en, il a écrit un article merveilleux de 12 pages en 2016, justement en disant qu'il fallait absolument quitter cette dictature du chiffre et le modèle économique. C'est, on est là avec un seul objectif, le profit. Et moi, à chaque fois que je travaille avec des entreprises, je leur dis, bon, est-ce que vous êtes prêts à mettre autre chose que le profit comme priorité? Est-ce que votre santé, la santé des collaborateurs, n'est pas une priorité par rapport au profit ou à la croissance illimitée? Et tant qu'on n'a pas fait ce passage, tant qu'on n'est pas capable de dire « oui, la santé de mes collaborateurs est plus importante que le profit que je réalise », on reste dans le système économique. Moi-même, le mot qu'on a employé tout à l'heure, le mot « pouvoir d'achat », ce n'est pas le pouvoir d'achat qu'il faut compter comme qui doit être une mesure, c'est le pouvoir de vivre, c'est le pouvoir de s'exprimer. L'important, ce n'est pas de gagner l'argent, c'est de gagner sa vie. C'est ça qu'il faut voir. Donc, il faut changer le mode de pensée. Il faut changer notre mode de communication et nos critères. Enfin, moi, c'est
mon point. Oui, j'entends. Mais tant qu'il y a une accaparation des richesses par une minorité, accaparation qui s'accentue, ce qui reste de disponible pour les autres, et encore, je veux dire qu'en Europe occidentale, même les plus mal lotis sont quand même vachement bien mis par rapport à l'immense majorité de la population mondiale. On n'a quand même pas d'enfants qui travaillent dans des mines dans nos pays. On n'en a plus, en tout cas. Venant d'une famille mineure, je me rappelle effectivement qu'il y en a eu.
Voilà. Il y a une oppression des enfants. Hein. On a des enfants qui sont obligés de plus en plus d'aller à l'école, qu'on peut aussi considérer comme un dressage qui fonctionne bien. On a des enfants qui sont de plus en plus obligés d'être vaccinés, par exemple, donc qui subissent des agressions comme on en a subi, et que enfin c'est pas rose d'être un enfant en Europe. Hein.
Je préfère l'être en Europe que je ne sais pas au Zimbabwe ou
voilà.
Mais
au Bangladesh. Il faut quand même faire attention parce qu'à chaque fois on nous donne des exemples de pays qui se développent plus ou moins, où il y a beaucoup de misère, bien sûr. Et c'est un leurre, c'est quelque chose, c'est une rhétorique que j'entends souvent, et en fait c'est mieux pour nous tromper. Parce que moi je ne voudrais pas justement que les citoyens français tombent au niveau de vie de ces gens-là. Et ne nous y trompons pas, ce qu'est en train de faire Macron, ça en prend le chemin. Logiquement, même si je ne suis pas pour le capitalisme, cet argent, c'est compliqué. Il doit être amené pour développer les pays dans le monde entier. Voilà. Bon, le problème, c'est que il y a des guerres, on crée des guerres. Il y a des problèmes économiques, politiques. Vous voyez ce qui se passe en RDC. Hein. Donc, c'est pas évident tout ça. Mais donc, j'essaie de ne pas perdre le fil. Hein. Le capitalisme, ce capitalisme qu'on nous propose, il est trompeur en fait. Voilà. Donc, il nous donne des miettes. Voilà. Et je suis pas sûr qu'il fasse le maximum pour participer au développement des pays dans le monde. C'est un développement à l'économie. Et je ne sais même pas si on peut parler de développement. Et justement, on nous donne des exemples où il faudrait ne pas se plaindre parce qu'il y a des endroits, des enfants qui travaillent ou autre raison. Moi, je vois ça comme un retour en arrière. Hein. On a gagné des droits. Par exemple en 36 avec Léon Blum, le Front Populaire, tout ça. Emmanuel Macron, pour moi, c'est pas la République française. Il est en train de détricoter tous ses droits. Et comme il parle très bien, comme il présente très bien, on sait que c'est le genre idéal des mamies. Hein. Eh ben, il arrive à faire passer chez certains la pilule, voilà. Mais, moi, je le sens pas, ce type, voilà.
On a toujours eu des présidents aussi loin que je me souvienne, et je pense bah, du coup aller à un vieux président, à François Mitterrand, qui a commencé avec son ministre Paul Quillet, ministre de la Poste, à détruire la Poste, et quelques années plus tard, il y avait des suicides chez ce qui était devenu France Télécom. C'est Paul Quillet, ministre de gauche d'un François Mitterrand, qui a fait avaler beaucoup, beaucoup de pilules, qui avec sa ministre, sa première ministre, la première ministre femme, Georgina Dufoy, a inventé les charters pour renvoyer les étrangers chez eux, enfin, qui a été auteur de nombre d'horreurs, et que j'ai l'impression que président après président, il se succède et il se ressent. Moi, j'avais prévu quand même un fil rouge à cette émission, enfin, un fil jaune fluo, plutôt. C'est, donc, je me dois de faire un petit insert agenda, parce que c'est demain et après-demain, alors et ce sera après la fin de l'agenda. C'est, il est revenu 20h30 au Café Théâtre Andarta. C'est l'histoire de quatre copains depuis tout petit, ils sont toujours ensemble. Ils grandissent en faisant des ricochets sur le lac bleuté, deviennent des hommes. Un jour, leur chemin, et là, quelqu'un parlait de 1913, Jean-Loup, tu parlais de 1913 tout à l'heure. C'est proche historiquement. Un jour, sur leur chemin, ils rencontrent une grande ogresse faite de terre, de fer, de sang. Elle frappe à leur porte, vient jusqu'à eux pour les emporter, les dévorer. Ici, on l'appelle la guerre. Vont-ils lui échapper? Quel prix devront-ils payer pour s'en sortir? Un spectacle de conte. Sur le retour des hommes à la fin de la guerre de 14-18, pour que jamais cela ne se reproduise, c'est Sylvain Conan qui propose ce spectacle, et c'est demain soir, à 20h30, au Café Théâtre Andarta. Et cette grande guerre, cette grande faucheuse n'est pas pour rien non plus dans notre domestication actuelle et dans le fait qu'on ait appris à baisser la tête, à ne plus parler notre langue et à en crever par millions. Le lendemain soir, beatbox au Café Théâtre Andarta, ce sera à 20h30, il y a moins à dire, ça s'appelle Arptac. Et ce fil rouge que je vous proposais, c'était, puisqu'on est ce soir à propos des gilets jaunes, c'est pas très radiophonique ce jaune, mais en tout cas, on peut les voir sur le rond-point de Die, on ne le dira jamais assez, n'hésitez pas à la fin de l'émission, ou quand vous voulez, si vous êtes en voiture, à vous arrêter, à aller boire le café, à aller soutenir
Aline.
Et c'est...
Je vais te couper deux secondes. Ne vous y trompez pas non plus, les gilets jaunes ne sont pas tous des chômeurs, ne sont pas tous des gens...
marginaux.
Des marginaux, voilà.
Je dirais gilets jaunes, et quand on voit le nombre de voitures qui ont mis le gilet jaune sur leur pare-brise, voilà, c'est impressionnant. Et quand on voit, quand on donne des tracts, eh bien du coup, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui prennent sur leur temps de travail, enfin, voilà, une partie pour venir passer un quart d'heure, pour venir débrayer.
Pardon, excuse-moi, Aline. Donc moi-même, je navigue entre les ronds-points de Cré et de Die. Et j'ai eu l'agréable surprise de voir qu'une, justement, on parlait d'aide-soignante, une dame, gilet jaune, était aide-soignante. J'étais aussi dans un blocage à Port-les-Valences, et je me suis retrouvé avec des gens de l'hôpital de Valence, qui étaient là dans le blocage, qui faisaient un blocage. Donc, ce serait bien que les gens réfléchissent à ça et n'écoutez pas ce qu'on vous dit à la radio et sur les télés. Nous ne sommes pas des ringards. Voilà, dans la majorité des cas, et même je n'ai même pas à avoir une opinion sur les autres non plus. Nous ne sommes pas des ringards. Nous sommes des gens bien élevés et nous sommes de toutes conditions sociales. Nous avons même des avocats parmi nous. Voilà, vous seriez assez surpris en venant discuter sur les ronds-points. Ça vous apporterait énormément de choses, hein, je vous le dis. Hein.
Ça, c'est intéressant dans le DIWA de le remarquer quand on est sur le rond-point, de se rendre compte qu'il y a des gens donc, qui habitent à 10 dans le centre et qui arrivent, alors on est début janvier, alors ils arrivent sur le rond-point, voilà, depuis le temps que j'y pense, etc. Mais bon, j'étais pas très d'accord avec les revendications parce que bon, j'ai vu que ça parlait de ci, ça faisait ça, ça avait l'air d'être telle énergie. Et puis, pas instantanément, mais très rapidement, ils réalisent le décalage qu'ils ont entre l'image de comment ils pensent que ça se passe, des gens qui le peuplent, de types de discussions qu'il peut y avoir autour d'un bras zéro, et la réalité. Et ça veut dire que, en fait, on a une proximité géographique qui doit être de l'ordre de 500 mètres, à 1 km par rapport au centre de Die. Et il y a quand même des gens qui, un mois et demi plus tard, pensent être dans le vrai avec l'image dont ils se sont fait du mouvement via les grands médias. Ce qui est par rapport même, même énergétiquement, ça veut dire que même regarder le 20h le soir, ça prend, je sais pas, 50 minutes. C'est ce qui est. Alors que en passant, ne serait-ce que c'est, j'espère, mais oui, on va en discuter tout à l'heure, en passant 5 minutes par jour, juste, voilà, voir comment ça évolue, voir comment on peut participer, ou pas, mais en tout cas, passer 5 minutes et en fait se séparer de l'interface imposée petit à petit, qui une sorte de fenêtre sur la vérité qui serait, qui à la base est censée justement être, enfin, montrer la vérité, et aujourd'hui on sent le décalage énorme qu'il peut y avoir entre voilà, la télé, même internet, même sur les réseaux sociaux, selon les groupes, selon tout ça, on peut se faire une image complètement erronée de cette réalité.
En fait, ce qui est vraiment important, c'est de ressortir. Sortez de chez vous, sortez de votre zone de confort, parce que c'est sûr qu'autour du bras zéro, ben, on... Des fois, on se caille un peu.
Mais attention, ouais, vous n'y reviendrez peut-être pas. C'est ça le risque. Mais c'est un risque à prendre. Goût, hein.
C'est un risque à prendre. Ouais, vous ne rentrerez peut-être pas chez vous. Il y a quand même eu une époque, il n'y a pas si longtemps, avant Internet et avant la télévision, où les gens vivaient beaucoup plus dehors. Ils créaient entre eux des rapports organiques forts. Et je pense que la télévision a contribué fortement à fracasser ces relations de voisinage, de vie commune, à tel point qu'il y a quelques années, maintenant une quinzaine d'années, il a fallu réinstituer une fête des voisins, dans les grandes villes notamment, ce qui montre en fait le ridicule de la situation dans laquelle on est arrivé. C'est-à-dire devoir organiser une fête pour que les gens sortent de leur appartement, de leur maison, et se rencontrent.
Avec le mal à l'aise du coup, puisqu'ils n'ont
plus
l'habitude.
Ils n'ont plus l'habitude. Ah, et en fait, ce qu'on redécouvre sur les ronds-points, c'est d'occuper l'espace public. Parce que, en fait, pour en revenir un peu aux bases du mouvement, le gilet jaune, je trouve que c'est une idée mais extraordinaire. C'est le machin qui est fait pour être visible. Et les gens qui l'ont mis, ce sont des gens qui n'ont pas le droit à la parole, qu'on ne voit pas. C'est les invisibles du système. C'est les smicards, sous-smicards, légèrement sur-smicards, chômeurs,
non,
retraités. Il y a vraiment... Le mouvement, il a démarré comme ça. Avec une taxe sur le gasoil, comme une sorte de jacquerie, avant de devenir une sorte de maelstrom politique, comme ça, où les gens, tout à coup, découvrent tout ce qui ne va pas, et peut-être tout ce qu'ils peuvent faire ensemble. Mais le départ, c'était ça. C'était vraiment les couches les plus fragiles et qui avaient besoin de se montrer. Le gilet jaune, déjà, c'est génial. Le rond-point, c'est quand même une idée fantastique aussi. Le rond-point... C'est un espace artificiel, vide. Alors parfois avec une sculpture au milieu, parce que un maire en a profité pour faire plaisir à un copain. Les ronds-points ont donné lieu à une gabegie d'argent public phénoménale en France pour les décorer, les illuminer.
Ah oui,
je ne sais pas si un jour on a chiffré, si un jour on a chiffré ce que nous ont coûté les ronds-points, mais c'est en peut-être dizaines de milliards. Et aujourd'hui, les réinvestir. Réinvestir ces espaces qui sont là à la régulation des flux. C'est-à-dire qu'en fait, le rond-point, il
est fait pour ralentir.
Il est fait pour ralentir légèrement le flux, l'organiser autour du rond-point et le faire filer dans la bonne direction. Et se tenir sur le rond-point en jaune, en essayant, ça dépend des ronds-points, ça dépend des moments, de ralentir le flux, de peser dessus, de l'interroger, ça déjà, c'est juste une idée de génie. Et en plus, ça permet d'être dehors et de rencontrer des gens, pourtant le diwan n'est pas grand, qu'on n'avait jamais vu, avec qui on n'avait jamais ou très peu échangé, et d'essayer de reconstruire quelque chose ensemble, ou de discuter qu'en fait, cette occupation de l'espace, elle est déjà gênante pour les pouvoirs publics, ce qui démontre à quel point on est en train doucement de glisser d'une 5e république assez autoritaire intrinsèquement au niveau constitutionnel, vers une sorte de démocrature où les libertés publiques se restreignent. Et la répression qui pèse, parce que ça je voulais quand même en toucher un mot, même si dans une récente émission de RDIWA, le sujet a déjà été évoqué, à travers quelques cas particuliers, nos quatre amis, Dromois et leurs ennuis judiciaires, la répression qui s'exerce sur l'ensemble du mouvement et individuellement est absolument phénoménale. La manière dont le gouvernement, alors là ça va être un peu fort, mais cette augmentation que la police nationale a eue, environ 150 à 200 euros par mois, ça ne va pas venir
100
tout
à 150.
Ouais, 100 ou 150 qui vont venir sur un an, mais d'abord 30, puis 50. Enfin, théoriquement, en bout d'année, s'il n'y a pas un bug informatique, parce que ça, c'est. On a l'impression qu'ils aiment bien se réfugier derrière les bugs informatiques. Il devrait avoir peut-être 100, donc 100, 120 euros de plus par mois. Ben, je suis désolé, mais ça s'appelle la mercenarisation des forces de l'ordre. Et c'est absolument indigne de la République. Utiliser l'argent public pour renforcer le barrage que les forces de l'ordre constituent entre une population en colère et un pouvoir devenu illégitime, c'est complètement indigne. Et j'espère que les autres membres de la fonction publique, les enseignants, les fonctionnaires territoriaux, vont embrayer à fond là-dessus et demander eux aussi leurs 150 balles, quoi. De manière à ramener ce phénomène de mercenarisation à l'éteindre, à l'annuler. C'est Macron se cache derrière des hordes de CRS.
Derrière des bras armés.
Des bras armés, voilà, c'est ça. Il se cache derrière. Il a quand même son hélicoptère prêt à décoller au cas où les choses tourneraient mal. Ça s'est vu à partir de l'acte 2. Je pense même peut-être à l'acte 1. Quand ils ont pris mesuré l'ampleur du mouvement, léger glissement, je vous assure qu'en termes d'information, on est en pleine propagande chinoise sur les chaînes nationales et sur les chaînes privées. En regardant Antenne 2, TF1, France 3, en lisant les grands médias mainstream sur Internet, en regardant BFM ou LCP, je vous assure, là je m'adresse évidemment à ceux qui écoutent ici, pas spécialement aux personnes qui sont dans le studio, que vous ne savez rien de ce que le mouvement opère comme action. Par exemple, il y a deux semaines d'ici, il y a 10 jours, l'intégralité des péages sur la façade ouest de la Drôme, donc l'A7, de Chanas à Montélimar Sud, était gratuit. Ce sont nos autoroutes, on les a déjà payées, Villepin les a vendues pour une bouchée de pain à des cartels privés qui s'engraissent dessus, on les récupère. Est-ce que vous avez vu une ligne quelque part dans un grand média pour dire, et je ne parle que pour la Drôme, mais parce que je sais que plus haut jusqu'à Lyon et plus bas jusqu'à Marseille, il y avait quantité d'autres opérations similaires. Donc pratiquement, c'était toute la Sète qui, de Lyon à Marseille, était gratuite la même journée. Les péages étaient ouverts. Rien. Pas un mot. Un autre type d'action, est-ce que vous avez entendu qu'aujourd'hui, il y a eu 3 raffineries qui ont été plus ou moins brièvement bloquées parce que la machine répressive se met rapidement en marche. À Fézin notamment, le blocage a tenu à peu près 1h30. C'est-à-dire que les gilets jaunes visent des centres de production importants. Une raffinerie, c'est ça qui fait tourner l'économie. Rien, nulle part. On va vous parler de 2 casseurs qui ont pété une vitrine sur les Champs-Élysées. On va vous parler de 2 villas fascistes qui ont fait un salut nazi. Et en fait, c'était pas un salut nazi. En fait, ils se sont trompés. Et toujours, on va jouer le détournement et les tentatives d'affaiblissement du mouvement. On vous bourre le mou.
J'ai l'impression que ce qu'ils n'arrivent pas à lâcher, c'est qu'ils sont attachés au fait de pouvoir dire quotidiennement, ou en tout cas là il y a toujours le samedi qui est un peu toujours le baromètre, que la baisse de la mobilisation continue. C'est la tendance qui est importante. On n'est plus forcément à dire est-ce que c'est 10 000, 100 000. On dit en tout cas, voilà, un samedi de plus, ça baisse encore. Avec un ton fait pour enlever l'énergie aux gens. Alors que on peut vraiment remarquer sur le terrain que c'est pas du tout le cas. Que si on pouvait faire un baromètre à klaxon sur les ronds-points, ou à sourire, ou à coucou, ou à des gens qui passent amener des papillotes, on se rend compte que c'est pas du tout ce qui se passe.
En matière de mobilisation et de répression, Je vous encourage, les auditeurs, et puis peut-être aussi ceux qui sont ici et qui ne savent pas, à lire les tweets du syndicat France Police. C'est extraordinaire. C'est un syndicat assez minoritaire, présenté comme la 5e force syndicale de police. Leurs analyses sont pertinentes. Par exemple, sur les gens qui ont été nassés à Montmartre, ils exigent. Donc un ensemble de personnes, à peu près 200 personnes, se sont retrouvées prises dans un filet de CRS avec la possibilité de bouger. Ça a duré une heure et demie, quelque chose comme ça. Et ce syndicat de police a demandé des explications sur le statut de ces gens-là. Soit on n'a rien à leur reprocher et ils sont libres de leur mouvement. Donc la NAS est illégale. Soit ils ont commis des actes répréhensibles et c'est le début d'une garde à vue et auquel cas il faut leur signifier que la garde à vue a commencé comme ça sur la place publique dans une espèce d'enclos à ciel ouvert. Et ce syndicat de police souligne aussi le côté risible des mobilisations, des chiffres de mobilisation officiels, donc venant des préfectures et vaillamment retransmis par les petits soldats des médias mainstream. Par exemple, le vendredi il y a deux semaines, ouais, ils annonçaient 28 000 gilets jaunes mobilisés dans toute la France. Et ce jour-là, France Police sortait 200 000 manifestants sur les ronds-points. C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien savoir, quand on est 15, 20, 30, 60, ou 80 même, bon, c'est à l'occasion du réveillon, sur le rond-point de Die, est-ce que la préfecture prend acte de ces chiffres? Est-ce que ces chiffres sont compilés avec tous ceux des milliers de ronds-points occupés pour fournir un chiffre véritable et non pas une contre-propagande chinoise de la mobilisation réelle du mouvement?
Tu sais, quand tu dis est-ce que la préfecture a conscience de ça, je veux dire, il ne faut pas oublier qu'on est sur Radio Diwa ici, mais on est surtout à Die. Et à Die, moi en tout cas, j'ai toujours vu une communication assez remarquable de la part des employés de la mairie, des employés de la sous-préfecture et des employés de la gendarmerie. Et tous ces gens, quand on leur dit et on parle avec eux de manière tout simplement, on leur dit bon ben, toi t'es un gilet jaune exactement comme moi, ils répondent tous oui. Parce que on est tous ensemble. Les gilets jaunes, c'est quoi? C'est tous ceux qui ne font pas partie du 1%. Les 1%, c'est quand même au-dessus de 25 millions de dollars ou 25 millions d'euros, quoi. C'est ça. Les 1%, ils sont dessus. Mais tous les autres, c'est nous qui sommes concernés. C'est nous qui sommes concernés par ce changement. Moi, ce qui me fait encore vraiment plaisir avec tout ce mouvement et surtout ce qui a été réalisé au rond-point de Die, c'est, puisque j'y suis allé, j'ai compté les 300 personnes qui ont circulé, ne serait-ce que le jour de l'an, dessus, eh bien, ce sont des personnes avec lesquelles on a eu un contact. Et puis, quand on se recroise dans la rue, ben, on se redit bonjour, mais de manière complètement différente. Mmh. Parce que le ton a changé. C'est-à-dire, d'un seul coup, on se dit, attends, l'important, c'est quoi? C'est la vie. C'est de se dire bonjour, c'est d'échanger. Et il faut vraiment sortir de ce système économique capitaliste. Il faut vraiment arrêter de compter comme ça. Il faut chercher tous les moyens de communiquer, d'échanger des services, de se rendre service, de passer du temps ensemble, d'apprendre à cueillir les plantes sauvages, d'apprendre à cuisiner ensemble, d'échanger des services, mais de communiquer de manière différente. C'est ça qui va faire le changement.
Oui, alors j'entends ce que tu me dis sur le... Alors autant j'ai de très bonnes relations avec les gendarmes de les brigades du Diwa, autant je n'ai aucune confiance dans les préfets et dans ce qu'ils transmettent ou pas à leurs autorités de tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur d'abord. Il y a visiblement une manipulation des chiffres. Cette manipulation est organisée d'en haut et va au moins jusqu'au préfet et sous-préfecture. Si on demande des rapports aux gendarmes, je suis sûr qu'ils les fournissent et qu'ils disent il y avait 35 personnes à Die, il y avait 60 personnes à Davézieux, il y avait 18 personnes à Trifouilly-les-Oies. Je suis sûr qu'ils le font. Je suis sûr qu'ils font leur boulot honnêtement. Et je suis sûr qu'il y a un filtrage quelque part, filtrage que ce syndicat de police met en évidence en multipliant par 10 les chiffres de mobilisation. Ceci dit, je suis tout à fait d'accord. Ce ne sont que des chiffres, Mais il y a une stratégie là derrière. Il y a une stratégie d'un État qui vise à discréditer les villas fascistes, les villas casseurs, affaiblir la faible mobilisation, le mouvement. Et contre ça, bah, il faut aussi lutter. Et on a des alliés dans la police. Moi, leurs gendarmes, je leur dis, enfin les gendarmes qu'on a ici, moi j'aimerais bien que vous soyez nos gendarmes. Que vous preniez, que vous régliez les problèmes qui sont à régler sur le territoire par l'émanation de la demande des citoyens. Et non
donc,
pas répondre.
L'émanation de la demande des citoyens. Voilà, moi il y a du coup, j'ai 20h20 sur votre radio RDWA que vous écoutez sur le 107.5 FM ou en direct aussi sur rdwa.fr. On va tout faire ce soir pour cette émission, contrairement aux dernières émissions du jeudi soir, soit podcastable. Voilà, alors inutile de sortir vos vieux radiocassettes pour l'enregistrer à l'arrache. On va essayer de vous la fournir en MP3 à partir d'internet. Et là, bon, j'ai l'impression qu'on est dans l'ordre et dans la répression et tout ça. Moi, j'aimerais qu'on revienne au gilet jaune, à cette émanation qui n'est pas une émanation de l'autorité, mais qui est une émanation des gilets jaunes, en vous faisant écouter un son qui date du 30 novembre et qui s'appelle l'appel de Commercy, et qui, pour la petite histoire, a été ce que la chorale L'Émeute, à laquelle je participe, a entendu et qui a dit, bah, du coup, après le 30 novembre, après qu'il soit publié. Tiens, on n'a qu'à aller sur les ronds-points, puisqu'en fait, il ne se passait rien à ce moment-là, a dit. Donc, c'est un peu comme ça que, pour ce qui est de notre petite histoire, on a connu. Ça dure 5 minutes, et puis ça vient vraiment de certains gilets jaunes, et de voir comment ça résonne avec ce qui se passe, a dit.
On écoute. À des assemblées populaires partout, refusons la récupération, vive la démocratie directe, pas besoin de représentants régionaux. Depuis près de 2 semaines, le mouvement des Gilets jaunes a mis des centaines de milliers de personnes dans les rues partout en France, souvent pour la première fois. Le prix du carburant a été la goutte de gasoil qui a mis le feu à la plaine. La souffrance, le ras-le-bol et l'injustice n'ont jamais été aussi répandus. Maintenant, partout dans le pays, des centaines de groupes locaux s'organisent entre eux, avec des manières de faire différentes à chaque fois.
Ici à Commercy en Meuse, nous fonctionnons depuis le début avec des assemblées populaires, quotidiennes, où chaque personne participe à égalité. Nous avons organisé des blocages de la ville, des stations-service et des barrages filtrants. Dans la foulée, nous avons construit une cabane sur la place centrale. Nous y retrouvons tous les jours pour organiser, décider des prochaines actions, dialoguer avec les gens et accueillir celles et ceux qui nous rejoignent dans le mouvement. Nous organisons aussi des soupes solidaires pour vivre des beaux moments ensemble et apprendre à nous connaître en toute égalité. Mais voilà que le gouvernement et certaines franges du mouvement nous proposent de nommer des représentants par région, c'est-à-dire quelques personnes qui deviendraient les seuls interlocuteurs du pouvoir public et résumeraient notre diversité. Mais nous ne voulons pas de représentants qui finiraient forcément par parler à notre place.
À quoi bon ? À Commercy, une délégation ponctuelle a rencontré le sous-préfet dans les grandes villes. D'autres ont rencontré directement le préfet. Ceux-ci font déjà remonter notre colère et nos revendications. Ils savent déjà qu'on est déterminé à en finir avec ce président haï, ce gouvernement détestable et le système pourri qu'il incarne. Et c'est bien ça qui fait peur au gouvernement. Car il sait que s'il commence à céder sur les taxes et sur les carburants, il devra aussi reculer sur les retraites, les chômeurs, le statut de fonctionnaire et tout le reste. Il sait aussi très bien qu'il risque d'intensifier un mouvement généralisé contre le système.
Ce n'est pas pour mieux comprendre notre colère et nos revendications que le gouvernement veut des représentants. C'est pour nous encadrer et nous enterrer. Comme avec les directions syndicales, ils cherchent des intermédiaires, des gens avec qui ils pourraient négocier, sur qui ils pourraient mettre la pression pour apaiser l'éruption. Des gens qu'il pourra ensuite récupérer et pousser à diviser le mouvement pour l'enterrer.
Mais c'est sans compter sur la force et l'intelligence de notre mouvement. C'est sans compter qu'on est bien en train de réfléchir, de s'organiser, de faire évoluer nos actions, qui leur foutent tellement la trouille et d'amplifier le mouvement. Et puis surtout, c'est sans compter qu'il y a des choses très importantes, que partout le mouvement des Gilets jaunes réclame sous diverses formes, bien au-delà du pouvoir d'achat. Cette chose, c'est le pouvoir au peuple. C'est le peuple pour le peuple. C'est un système nouveau où ceux qui ne sont rien, comme ils disent avec mépris, reprennent le pouvoir sur tous ceux qui se gavent, sur les dirigeants et sur les puissances de l'argent. C'est l'égalité, c'est la justice, c'est la liberté. Voilà ce que nous voulons. Et ça part de la base.
Si on nomme des représentants et des porte-paroles, ça finira par nous rendre passifs. Pire, on aura vite fait de reproduire le système et fonctionner de haut en bas, comme les crapules qui nous dirigent. Ces soi-disant représentants du peuple qui s'en mettent plein des poches, qui font des lois qui nous pourrissent la vie et qui servent les intérêts des ultra-riches. Ne mettons pas le doigt dans l'engrenage de la représentation et de la récupération. Ce n'est pas le moment de confier notre parole à une petite poignée, même s'il semble honnête. Qu'ils nous écoutent tous ou qu'ils n'écoutent personne.
Depuis Commercy, nous appelons donc à créer partout en France des comités populaires qui fonctionnent en assemblée générale régulière. Des endroits où la parole se libère, où on ose s'exprimer, s'entraîner, s'entraider. Si délégué il doit y avoir, c'est au niveau de chaque comité populaire local de Gilets jaunes, au plus près de la parole du peuple, avec les mandats impératifs, révocables et tournants, avec la transparence, avec la confiance.
Nous appelons aussi à ce que les centaines de groupes de Gilets jaunes se dotent d'une cabane comme à Commercy, ou d'une maison du peuple comme à Saint-Nazaire, bref, d'un lieu de ralliement et d'organisation. Et qu'ils se coordonnent entre eux, au niveau local et départemental, en toute égalité. C'est comme ça qu'on va gagner, parce que ça, là-haut, ils n'ont pas l'habitude de le gérer. Et ça leur fait très peur. Nous ne nous laisserons pas diriger. Nous ne nous laisserons pas diviser et récupérer. Non aux représentants et aux porte-paroles autoproclamés. Reprenons le pouvoir sur nos vies. Vive les Gilets jaunes dans leur diversité. Vive le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple.
Quoi ? Il y en a au rond-point ? Du large, du marron ?
Il y en a ?
Ouais,
ah, ben d'accord, j'en...
Les micros sont ouverts. Donc ça vient de Commercy, ça datait du 30 novembre. Plusieurs points qui me semblaient intéressants. Le fait d'assemblée populaire, le fait de la cabane, et des idées, des outils à la fois abstraits, on pourrait dire, ou des outils concrets. Qu'en est-il à dit ?
Alors, je vais faire vite un petit topo.
Et un appel.
Voilà. Alors, historiquement, vite fait, on a d'abord commencé par occuper le rond-point de Chamarge, qui était trop exposé au vent, au milieu de la zone industrielle, c'était pas bien jojo.
Pas éclairé.
Et le Diwa, dit, est plutôt connecté au Haut-Diwa, donc on s'est déplacé. Au bout de 3 jours de présence sur l'îlot central qui fait face au rond-point, on a été délogé. Un matin, on était 4, 5 avec une dame de passage, et 14 gendarmes sont arrivés, ont embarqué le matériel avec l'aide de la voirie et des pompiers qui ont éteint le bras zéro. Résultat des courses, quelques heures plus tard, il y avait 3 fois plus de matériel et 3 fois plus de gilets jaunes, jusqu'à 60 personnes le soir. Les choses se sont bien passées ensuite, on a appris à développer nos bonnes relations avec la gendarmerie, on s'est déplacé sur le centre du rond-point.
Incendie quand même entre les deux.
Oui, on a eu un incendie, plusieurs actes de malveillance en tout cas, voilà. Dont un incendie de palette.
On peut pas laisser, c'est pas par rapport aux gendarmes, c'est par rapport à des...
Donc c'est très difficile de laisser le rond-point inoccupé. Ouais. Donc maintenant, on a pris vraiment le rond-point proprement dit. On avait pu bénéficier d'un bout de cabane un peu tombé du ciel. Mais il a fallu, les gendarmes sont intervenus pour le faire démonter par la voirie. Et nous est tombé du ciel, au réveillon, une autre cabane qui, je pense, dans le paysage d'Iwa, et y compris dans l'intégralité du paysage d'Iwa, je vais le dire comme ça, passe plutôt pas trop mal. Mais il se pourrait que les choses ne soient pas aussi bien vues de plus bas dans la vallée. Et là, je voudrais inviter les...
De la part des autorités, hein, ouais, de la part des gilets jaunes.
Ouais, de la part des autorités.
Ils sont ravis.
Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est bien des autorités que je parlais. Et c'est pour ça que j'invite les gilets jaunes et leur soutien à venir occuper le rond-point demain. On a l'une ou l'autre information qui pourrait laisser penser que... cette cabane qui a été vraiment enjolivée, qui devient un lieu de vie, pourrait être l'objet d'une application stricte du plan Castaner de décabanisation des ronds-points.
Stricte et musclée.
Stricte et musclée, oui.
Donc ça fait deux rendez-vous en fait. Le rendez-vous qu'on a, si vous avez loupé le début de cette émission, on rappelle, le 5 janvier, et il y a des informations en ville, voilà, on n'aura pas lu l'intégralité du petit texte, mais on vous invite à vous y reporter ou à venir avec vos propres questions. Le 5 janvier, à partir de 10h, au rond-point, pour faire une marche au marché, en ville en tout cas, et puis revenir sur le rond-point, donc le rond-point comme centre névralgique, avec cette cabane, eh bien, en espérant qu'elle soit toujours là comme outil. Et puis rendez-vous, en fait, dès demain, allez, on peut dire dès maintenant, dès cette nuit, dès 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, n'hésitez pas, le plus tôt possible, et que ce soit pour un quart d'heure ou pour 3h.
Cette cabane est ouverte à tout le monde.
Ouais, à tout vent, à presque tout le monde. Et à tout le monde. Et c'est un vrai outil, et c'est marrant que donc le 30 novembre, c'était un des appels de cet appel de Commercy de se doter d'outils qui nous permettent de penser. Donc ça et les assemblées populaires. Est-ce que donc
une sorte de maison du peuple,
on a
en
beaucoup
fait,
parlé. Ouais. Voilà, on parle beaucoup sur ces ronds-points. On peut dire ce que vous voulez.
Alors est-ce qu'on peut parler du dernier outil justement qui donne une bonne raison au-delà de la protection physique, parce que effectivement n'importe quelle présence, il n'y a pas de durée minimum, c'est valorisé parce que effectivement que ce soit les gendarmes ou les chiffres sont reportés et dès que ça dépasse 5-6 personnes, on sait qu'on est. Enfin après ça dépend, mais dès que ça atteint une dizaine de personnes, on sait que les interventions pour eux, ils auraient tendance à dire bon bah tant pis, voilà, il y a du rapport de force. Mais au-delà de la présence qui a déjà de la valeur, on a pensé à un outil qui, alors je suis pas encore passé ce soir, mais qui a dû être commencé à être bricolé puisque ça implique du matériel un petit peu. Donc en fait, ça permet de faire émerger. De manière quotidienne, donc je sais pas de quelle manière, peut-être via le bip sonore, on peut faire une sorte de récapitulatif quotidien de ce qui est ressorti de l'outil. Mais en fait, vous passez 5 minutes, à partir du moment où c'est quotidien, votre opinion pèsera dans la balance au même titre que n'importe qui. Donc ça valorise le fait de passer dire bonjour, ça permet aux gens qui légitimement disent bah on n'a pas le temps entre le travail, les enfants, il y a plein de bonnes raisons de ne pas avoir le temps. Là, 5 minutes ça suffit pour en fait, ça consistera dès demain je pense, à mettre des petites billes en face des propositions, d'ajouter des propositions, de permettre aux autres de voilà, il y a vraiment une notion de pondérer des revendications pour se sentir représenté. Parce que la démocratie directe, à l'opposé de la démocratie représentative, c'est pas tant pour éviter. Si on parle de représentativité, c'est important pour chacun, chacune, de se sentir représenté par ce qui émerge de ce rond-point. Et il y a tout qui est en place. Ça veut dire que vous passez 5 minutes et votre identité, vos opinions sortiront. Seront du coup également communiqués dans les réunions avec CRE, avec la Vallée du Rhône. Donc il y a vraiment, je pense que l'appropriation, se dire c'est pas il y a moi et les gilets jaunes. En fait, à partir du moment où on met un gilet jaune sur le dos, et encore on n'est vraiment pas strict là-dessus, en fait le mouvement, on en devient on va dire actionnaire et on peut en retirer des bénéfices. En se sentant représenté, et du coup petit à petit, parce que au final c'est aussi ça, c'est qu'on dit venez 5 minutes, mais on se rend compte que les gens qui viennent 5 minutes, ils restent facilement une demi-heure, trois quarts d'heure, et ils prennent goût. Enfin, ça veut dire qu'on est plus dans, il y a peut-être un effort la première fois, mais après on se rend vite compte de la valeur que ça a, ne serait-ce que humaine, ne serait-ce que parce que on a du café et des brioches, c'est en continu, il y a un peu abondance de ce côté-là, et que rien que ça, ça fait déjà plaisir. Alors si en plus il y a ce qu'il faut en place, ça se structure de jour en jour. Voilà.
Ouais. Non, moi je voulais dire que le mouvement n'est qu'au début pour moi.
Ça ne fait que commencer.
Voilà. Même s'il y a eu un début, en fait, on peut estimer que c'est un commencement. Et je vous invite à ne pas louper le train qui en marche.
Oui, alors d'ailleurs, je voulais, c'était sur la répression. Il y a eu un article dans Le Point hier ou avant-hier, juste pour dire qu'il y a des vraies bonnes raisons par rapport aux propositions de loi qui sont discutées aujourd'hui. Il y a des vraies raisons de penser qu'en fait, l'opportunité qu'on a eue là va créer et est déjà en train de créer une réaction côté législatif pour empêcher que ça se produise dans le futur. Donc la stratégie qui consisterait à dire oui bon bah là en ce moment il fait un peu froid, ou de dire ouais là alors là ça tombe mal parce que j'ai piscine, il y a une vraie raison de se dire je vais quand même aller voir parce que c'est peut-être cette fois la bonne.
C'est oui, c'est important que vous veniez parce que là se joue l'intérêt, vos intérêts et l'intérêt de vos enfants. Alors, je ne sais pas si tous les gens en ont conscience, mais ce qui est en train de se passer, c'est très, ce qui se passe en France, c'est très important d'une part, et en même temps, par rapport justement à, qu'on s'en prend à la liberté d'expression, ça, c'est très très grave. Donc, vous ne pouvez pas laisser le président Macron devenir un monarque totalitaire. Ça, ce n'est pas possible. Quand on est président de la République, il ne suffit pas d'être élu pour 5 ans et après de faire ce qu'on veut. Un président, ça doit rendre continuellement des comptes au peuple. Voilà. Donc, il est là pour nous et ce qu'il est en train de faire, là, il se met contre nous. Le président de la République française, j'insiste bien, on n'est pas dans une République bananière, c'est la République française, les valeurs de la République française, c'est le président qui doit servir le peuple et qui ne doit pas desservir le peuple.
Je voudrais rebondir, parce que j'entends bien ce que tu dis et sur ce que disait notre ami tout à l'heure en disant, bon, avec les gendarmes ça se passe très bien, mais avec la préfecture pas très très bien et autre chose. Je veux dire que sincèrement, Patrice Bouzillard, qui est notre sous-préfet, est quelqu'un d'accessible, qui est ouvert, qui a une famille et qui tient à s'occuper de sa famille, qui est préoccupé par les problèmes d'éducation de sa famille, par son ouverture. Gilbert Trémollet, notre maire, est vraiment quelqu'un qui sort à toutes les manifestations, en chemise, avec son épouse le soir, sans escorte. Il est facile d'accès, on peut en parler. Il a mis un cahier de doléances à la mairie. Il faut y aller écrire tout ça et continuer de parler à tout le monde. C'est vrai que les gendarmes ont été exceptionnels vis-à-vis de nous quand on a parlé des malveillances qu'il y avait eu sur le rond-point. Ils ont dit, mais si vous avez le moindre problème, vous faites le 17 en 5 minutes, on est là pour vous aider. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Mais, je voudrais pas jeter la pierre non plus sur Macron parce que, sur monsieur Emmanuel Macron, parce que on n'est pas à sa place. Et lui, pour moi, il est complètement avec un couteau sous la gorge, un pistolet derrière et un pistolet derrière la tête de tous les membres de sa famille par les banquiers qui ont pris le pouvoir. C'est tout, c'est pas autre chose. Donc c'est une prise de pouvoir du monde actuellement.
On va pas le plaindre non plus. On va pas le plaindre non plus. Il savait qu'il
a choisi, mais je dirais simplement ce que disait Coluche. Hein, je dirais si les élections servaient quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Bon ben on va pas refaire ce système-là. Il faut changer de système. Donc on peut pas se plaindre que l'argent soit pas redistribué. Il faut sortir de là. Et sortir de là, ben, c'est arrêter d'acheter, c'est changer complètement son comportement d'achat, c'est changer son comportement par rapport au travail. J'ai entendu à la télévision quelqu'un qui disait la seule solution, c'est la grève générale, et c'est probablement quelque chose comme ça qui va se passer. Moi, j'en sais rien, mais je dis, il faut s'ouvrir, il faut surtout communiquer et sortir du système économique, échanger des services. Et échanger un service, c'est légal. Personne ne peut rien nous dire. Mmh. Mais c'est ce qu'il faut faire.
Et passer gratuitement.
Et surtout, passer au rond-point et continuer.
Monsieur Trémollet, d'ailleurs, s'il nous écoute ce soir, est bienvenue au rond-point pour venir y boire un café. En général, il y en a du chaud.
Oui, il fera un bon accueil. Hein.
On a eu des discussions tellement extraordinaires avec les gendarmes. C'est dommage que monsieur le maire ne soit pas encore passé nous voir. Mmh.
D'ailleurs, nous n'avons rien contre les forces de l'ordre. Nous savons simplement qu'ils
sont... Non, c'est eux qui ont des choses contre nous, souvent.
Ça dépend. Bon, après,
moi, je suis jamais allé
si on a à se reprocher des choses, c'est... Voilà. Non, nous n'avons absolument rien contre les forces de l'ordre. Simplement, quand elles sont utilisées juste dans des fins répressives et contre, on va dire, une opposition politique, on va dire que ça nous gêne, là, bien sûr. Hein. Et moi, je comprends très bien que ce sont des gens qui ont une famille, qui ont un emploi et qui ont surtout peur de perdre leur emploi. Voilà. C'est ça. Ils vont pas nous le dire, bien sûr, mais on a tous très bien compris qu'il y a une pression énorme sur eux. Pour vous dire, quand je vais sur les ronds-points, quand je vais à Valence, qu'on laisse passer les automobilistes, quand vous avez un gendarme qui a un téléphone qui n'arrête pas de sonner, qui pendant une demi-heure est avec un téléphone, je pense pas qu'il soit cinglé. C'est simplement que vous avez un type au-dessus. C'est pour dire, ne vous y trompez pas, il y a des moyens énormes de répression en ce moment dans ce pays. Hein. Vous avez un type sans arrêt qui lui casse les pieds, pour ne pas dire autre chose. Hein. Et voilà, ça lui fait, je pense pas que ça lui fasse spécialement plaisir. Il est accablé par son employeur, qui est l'État. Voilà.
Il est 9h-20 sur Radio 9h-20 passé de quelques minutes. La radio, c'est de la transmission radiophonique, et c'est aussi de la transmission de savoir. Il se trouve que je vais m'en aller avant la fin de l'émission, avant 9h. Mmh. Alors vous qui êtes au poste, à l'écoute, ne vous inquiétez pas, à 9h, vous tomberez sur Melting Dub, l'émission qui viendra automatiquement. Et quant à nous, ou plutôt vous dans le studio, ce que je vous invite, c'est à continuer aussi longtemps que vous voulez, et puis ensuite à couper l'enregistrement. On va prendre 5 minutes, on va mettre une musique musique de Colette Mani. On va prendre 5 minutes pour que je puisse faire cette transmission et que vous puissiez finir cette émission le mieux du monde pour la qualité d'écoute et pour la qualité de la retransmission.
Je peux rajouter un truc sur ta...
Alors, ouais, vas-y. Allez, et puis après on envoie...
C'était justement pour enchaîner sur Colette, parce que du coup on a parlé de représentativité tout à l'heure, et ce soir c'est pas trop à l'image du rond-point dans le sens où il n'y a pas de femmes. Et qu'il faut dire qu'elles sont très présentes et ça change.
On a une parité homme-femme sur le rond-point, qui est impressionnante, avec
à la fois
des
impressionnante et à la fois qui naturelle et qui fait du bien et qu'on n'a pas ce soir, et c'est dommage. Ouais. Mais vous venez, vous ne serez pas les seules femmes. Vous ne tomberez pas au milieu d'un cercle d'hommes qui ont cherché à dominer en criant le plus fort possible.
Voilà. Voilà. Vous ne tomberez pas au milieu d'un cercle de barbus obscènes. Voilà.
Donc Colette Mani.
Son sang-froid. Aïe, pardon, je vous ai écrasé gros orteil, je suis des brigades d'intervention. Répression, répression, répression. Vous êtes qu'un passant. Mais maintenant, pour les manifestants, les grenades, on les tire à bout portant. Répression, répression, répression. On a supprimé les pavés, on a bitumé la chaussée, faciliter la circulation. Les trottoirs, c'est pour nous, la rue est à nous. Je m'ennuie. Vos papiers, si vous avez les cheveux longs ou un faciès d'une drôle d'espèce, mais si les cheveux vous les portez courts, on vous mettra pas dans les fours. Répression, répression, répression. Majorité silencieuse. Pas d'opinion, pas de délit d'opinion, pas de répression, pas de répression. À votre avis, pourquoi on met pas Jean-Paul Sartre en prison? Pas de répression, c'est pas un homme comptable, a refusé le prix Nobel, respecte pas les institutions. Et qu'est-ce qu'il fout sur un tonneau chez Renault? Chacun son poste. Nous, c'est les trottoirs. M'ennuie. Répression, répression, répression. Liberté de la presse, quelle ivresse! On couche avec les princesses par procuration. Journaux à grand tirage affichent dans le métro sur les grands boulevards. Font rage de fesses et seins roses bonbons. Mais attention! Faut pas faire l'idiot national ou international. Faut pas vendre des journaux, rencontrer les marchés. Faut laisser circuler la majorité. Répression, répression, répression. Clac. Salut les cops. Manger de la soupe fait grandir, vrai ou faux? Bla 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 bla. Vite, la masturbation rend fou. Oh, vrai ou faux? Coup de grisou chez les mineurs, ils sont en danger. Arakiririkira, 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 dernier Eden, Eden, Eden. Ici on est libre, on n'est pas chez les colonels. On peut encore avoir un parterre de fleurs rouges devant sa maison, ou s'y flatter n'importe quelle connerie de la télévision. On nous mettra pas en prison. Ah mais non, ah mais non. Mais attention, attention, où va-t-on, où va-t-on? C'est vrai, faut faire le procès de la vitesse pour bombarder le Nord-Vietnam en deux temps trois mouvements. Mais pour les secours au Pakistan, on a tout le temps, on a tout le temps, on a tout le temps. Suspicion, suspicion, suspicion. C'est présumé coupable par le juge d'instruction. Loi contre la drogue. On peut venir vous trouver de jour ou de nuit dans votre lit. Vous êtes présumé coupable par le juge d'instruction. Continue comme ça. Un jour on verra peut-être les magistrats, les lycéens, cul à cul dans la rue. Répression, suspicion, où va-t-on, où va-t-on? Jusqu'où ira-t-on, 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 ira-t-on?
Nous voilà de retour, après l'intermède musical et le départ d'Aline. Donc il nous paraît important là maintenant de vite refaire un petit topo sur les rendez-vous pour ceux qui accrochent l'émission en route. Donc le samedi à 10h, rendez-vous au rond-point pour une marche d'Andy à la rencontre des habitants, mais aussi avec les habitants. C'est vraiment ça dont on a envie. Les fameux 99% dont parlait Jean-Loup tout à l'heure, ensemble dans les rues de Die.
Marche discutante.
Voilà.
Pas criante.
Non, non, non. Pas de faire du bruit. Non, non, d'échanger. Voilà. Et le deuxième rendez-vous d'importance, qui pourrait être un peu moins léger, c'est de venir soutenir l'occupation du rond-point demain le plus tôt possible. Le plus tôt possible, parce que le risque qui pèse sur la construction tombée du ciel s'accroît. Quelques petites informations le laissent penser.
Voilà, je vais rajouter quelque chose. Il y a également une manifestation autorisée, ça veut dire qui a été demandée, puisque maintenant on sait très bien qu'on est sous une dictature, qu'il faut demander nos manifestations. À Valence, qui part du début de la rue Victor Hugo, donc vers les grands magasins, et qui part samedi à 13h30 et qui se dirigera en direction de la préfecture. Voilà. Donc moi j'y étais la semaine passée, donc nous remenons cette action et je peux même vous dire que ça se passe très bien. Nous avons une voiture de police devant nous puisque c'est une manifestation autorisée, et une voiture de police derrière nous, voilà.
Donc, la marche de 10, je voulais rajouter que c'est départ au rond-point, retour au rond-point, donc c'est une boucle. Ça veut dire que l'itinéraire, il est pas trop, mais bon, normalement dans 10, on arrive vite à se retrouver. Je pense on part de 10, on longe tout Camille Buffardel, on arrive par marcher par Émile Laurent, et après on reviendra au rond-point en prenant la rue de l'Armellerie et en retraversant le viaduc. C'est une espèce de boucle comme ça. Mais voilà, vraiment gentiment, enfin gentiment dans le rythme également. Mais du coup, départ et retour au rond-point, donc s'il y a des personnes un peu mobilité réduite, il y a absolument possibilité de rester à l'abri du vent, à la cabane, au comptoir, si elle est encore là debout samedi. Et ça, du coup, ça dépend aussi de vous. Il y a de la menace. C'est d'autant plus dommage que ça commence à être bien organisé, que ce soit au niveau, je sais pas, gestion de la propreté des gobelets dans lesquels on boit les cafés, et l'outil démocratique dont je parlais tout à l'heure pour faire émerger les revendications, les opinions de chacun. Et finalement, c'est cette structure-là qui est le plus dérangeante au niveau de la préfecture et qui vaut encore plus le coup pour nous, citoyens, de protéger. Il y a de la légitimité là-dedans. Les lois sur lesquelles ils s'appuient, à savoir occupation illégale de l'espace public, on peut dire, et d'ailleurs les gendarmes nous le disent à demi-mot, qu'ils sont d'accord. Ça veut dire qu'il y a une vraie valorisation de la population dès lors qu'on fait les choses bien. On les fait bien, on les fait même de mieux en mieux. Et si on doit démonter, ou alors que c'est détruit et qu'on repart de zéro, en fait c'est tout autant d'énergie gaspillée. Alors après on va me dire, ouais, bah alors vous faites que des cabanes, et puis de ça, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Bah oui, alors du coup il faut déjà pas les détruire, comme ça on prendra moins de temps à les reconstruire, parce que là aujourd'hui, bah, la nuit dernière, donc on est obligé de rester toute la nuit, on a eu en température ressentie pas loin de moins 10, sans cabane, ça pourrait être un peu compliqué, aucun doute. Et du coup on se met à l'abri, on n'a même pas gardé de brasero allumé pendant qu'on était à l'abri, parce que ça servait à rien avec ce vent glacial de se battre. Mais oui, aujourd'hui par exemple, les gens sont arrivés à 8h30, c'est un peu tard par rapport à, encore une fois, à la menace qui pèse sur ce bel outil, ce bel endroit en devenir, et enfin voilà, il faut le protéger. Il est à nous, il est à vous.
Voilà, si on considère la dernière expulsion de squat qui a eu lieu à 10, il était 6h30.
Voilà.
Ça donne une idée de l'heure à laquelle il est bon d'être sur place.
Ouais. Et quitte à aller se recoucher après, hein. Ça veut dire que si vous commencez de bosser à 9h, vous passez à 6h30 et vous repartez peut-être à 7h30. Enfin, incluez-le autant que faire se peut dans votre emploi du temps. Ça va, ça peut vraiment changer les choses. Ça se joue à peu, hein. On est 4, ils interviennent. On est 6, peut-être pas. Enfin, il y a des détails. Voilà. Dans la non-violence, on s'installe dans la cabane, on y reste assis, au coude à coude. On leur complique la tâche. Voilà. Ça vaut le coup. Encore une fois. Ah oui, et puis du coup, pour le samedi, je pense que ça peut être un bon rituel. Ça veut dire que là, on l'annonce pour ce samedi.
Oui.
Si on existe encore la semaine d'après...
Mais on existera.
Vous pouvez déjà vous dire que ça vaut le coup de venir. Quelle heure il est? Il reste 4 minutes.
Ouais, je veux dire...
Ouais. Non, il y a... Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Hein, on va survivre. Hein,
Juste le doute pour garder à l'idée que c'est pas gagné.
Ah non, c'est pas gagné. Non, j'ai pas dit que c'était gagné. Non, justement. Hein. Voilà, donc on aimerait bien que la population nous rejoigne de plus en plus, hein, parce que c'est déjà le cas. Hein. Et puis, justement, pour nous amener vos idées, vos réflexions, ça peut être très très intéressant pour nous.
Voilà. Du niveau de mobilisation dépend clairement la puissance, le pouvoir. De la revendication, c'est vraiment en lien direct.
Et je vais faire un dernier rebond sur ce qui a été dit il y a maintenant à peu près une heure. L'occasion qui se présente aujourd'hui de remettre l'intégralité du système à plat ne se représentera peut-être pas, pour différentes raisons. pour le fait que le système politique dans lequel on vit peut évoluer vers des choses encore plus dures, encore plus coercitives, encore plus contrôlées, où il deviendra de plus en plus difficile de s'exprimer. Ça, c'est un élément. Et la deuxième raison, c'est que là, maintenant, 2019, on s'approche d'un carrefour des crises phénoménales au niveau climatique, au niveau ressources, crise politique, crise sociale, crise financière. Et cette conjonction des crises pourrait nous faire basculer dans une période d'incertitude
risquée.
Ouais. Et c'est pour ça qu'aussi que... Enfin, moi, personnellement, c'est aussi pour ça que je suis sur le rond-point. Parce que je pense que l'urgence de tisser des liens, de confiance, d'habitude de faire ensemble, de construire ensemble sur notre territoire, à travers tous les réseaux qui existent déjà, et je vais dire au-delà de tous les réseaux qui existent déjà avec leurs propres combats, leur propre envie parfois, c'est pas toujours vraiment un combat, ça peut être une promotion du beau, une promotion du juste, qu'on s'unisse tous ensemble sur le territoire, qu'on solidifie nos liens, les années qui viennent ne seront pas plus faciles, loin de là, je pense, que les années qui ont précédé.
Je pense qu'il va être temps de remercier les auditeurs de Radio Diwan pour cette émission. En tout cas, moi, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé et surtout à l'organisateur qui est parti en premier.
Il est parti, mais voilà. On peut finir. Ouais, il reste 30 secondes. Un truc qui...
un truc sympa.
J'aimais bien le ami ami prox proscat comment on dit procrastinateur, unissons-nous demain.
Oui, voilà. J'aime beaucoup le mot sympa parce que c'est réellement ce que nous sommes, sans nous jeter des fleurs. Voilà.
Allez, force et courage à tous les gilets jaunes et à bientôt sur le rond-point.
Merci.
Curiosité et confiance.